Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevons aujourd'hui Bernard Astier et Christina Tari qui vont nous parler du collège Jean-Baptiste Fouque. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avant de commencer cette interview, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots l'un et l'autre.
Je suis Bernard Astier, président de l'association Jean-Baptiste Fouque qui gère en fait le collège.
Et moi je suis Christina Tari, je suis secrétaire de même association, de même collège.
Alors, ce collège qui se situe à Carnoul porte le nom de Jean-Baptiste Fouque. Alors, pourquoi ce nom ?
Alors, Jean-Baptiste Fouque est connu à Marseille comme étant le Saint-Vincent de Paul de Marseille. C'est un personnage assez étonnant. On va fêter très prochainement ses 90 ans de sa mort. Il est mort en 1926 et il y aura pas mal de messes à Marseille d'ailleurs qui vont être consacrées en début décembre. Ce qu'il a fondé de plus connu, c'est l'hôpital Saint-Joseph qui est à Marseille, qui est le plus grand hôpital privé d'Europe. Et bien sûr, il a fondé beaucoup d'autres associations, notamment des œuvres pour l'enfance délaissée. Il a recueilli également avec des sœurs, il a recueilli des jeunes femmes pour qu'elles échappent à la prostitution. Il a fondé un hôpital psychiatrique qui existe toujours. Enfin, il y a une douzaine d'œuvres qui existent toujours. Et voilà, donc il était inlassable, il confessait, il marchait énormément parce qu'il allait d'une maison à l'autre. Et c'était tout à la fois un Saint-Vincent de Paul, un Saint-Curé d'Ars, c'est un personnage étonnant. Il est très connu à Marseille. Et sa devise, c'est « Omnia possibilia sunt credenti ». Tout est possible à celui qui croit, et c'est notre devise également. Sans lui, on ne serait pas là aujourd'hui, bien sûr. C'est lui qui nous guide quelque part d'un niveau plus céleste, on dira.
Alors, très tourné, je crois que c'était un personnage très tourné vers l'enfance également, parce que je vois qu'il y a des œuvres vers, je cite les noms, vers l'enfance coupable, donc oui. Je suppose que c'est la jeune délinquance.
Oui, tout à fait.
Vers l'enfance anormale, donc les enfants qui souffrent d'un handicap.
Il a été un des premiers à s'occuper des enfants en effet handicapés, et il recueillait tout le monde. Ce qui était l'équivalent de la DAS à l'époque, lui amenait des enfants. Et c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment aujourd'hui il pourrait faire, hein, puisque il a surtout œuvré à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et les conditions requises aujourd'hui en termes de sécurité, etc., de papier, d'administration, seraient sans doute, un petit barrage. Enfin, je pense qu'il en serait venu à bout, mais un petit barrage à sa grande capacité d'amour. Donc en effet, ça a été un des premiers en France à s'occuper des enfants handicapés, délaissés, dits anormaux, etc. Et voilà, donc il appelait les enfants les petits Fouques. Et c'était toujours très émouvant parce que tous les ans, il y avait une grande fête qui réunissait toutes les personnes qui avaient fait leur scolarité. Et il y avait des enfants, des petits-enfants qui venaient et tout le monde l'appelait... c'était le bon grand-père, quoi. C'est un personnage étonnant, très étonnant.
Alors, on en revient donc au collège dont vous allez nous parler aujourd'hui. Quelles sont les particularités de ce collège ? Et là, je me tourne plutôt vers Christina.
Alors, une des particularités pour lesquelles j'interviens, c'est les après-midi, il n'y a pas cours. Il y a des activités, donc des ateliers, on appelle ça des ateliers. Et il y a théâtre, les enfants interviennent pendant les vendanges, ils interviennent pendant la récolte des olives. Je vais animer un atelier de poterie en janvier. Il y a d'autres intervenants, bien sûr, il n'y a pas que moi. Mais c'est un moment privilégié avec les enfants, pendant qu'ils apprennent beaucoup de choses différentes. Pendant les vendanges, par exemple, on peut inclure des apprentissages en sciences, en physique, par exemple. Mais ils sont en mouvement, en train d'apprendre en même temps qu'ils participent. Et c'est particulièrement efficace pour apprendre. Ils sont ravis de faire des activités et d'apprendre de cette façon-là. Et donc, ces ateliers viennent concrétiser tous leurs apprentissages qu'ils ont eus dans la matinée, pas exactement le même jour, mais le matin, c'est théorique et l'après-midi, c'est mise en pratique.
Alors, ça fait penser un petit peu au modèle américain, mais j'ai plus envie de dire, en entendant votre réponse, que c'est plutôt une application de la philosophie du réel.
Tout à fait. Je pense que ça aide énormément à l'apprentissage de mettre en pratique, même s'il ne réalise pas de suite, mais ils sont en train de le voir et de mettre leurs mains à la pâte et ils réalisent après où ça s'applique pour les mathématiques, pour tout apprentissage théorique en classe. Ils ont l'opportunité et la possibilité de le mettre en pratique pendant ces ateliers.
Oui, j'ai des souvenirs de mathématiques. J'étais très mauvaise en mathématiques, où justement je me demandais bien à quoi ça pouvait servir.
Et voilà.
Et bien justement, pour compléter ce que dit Christina, par un petit exemple, une de nos élèves, au cours d'un atelier qui était animé par un électricien professionnel, a compris dans le fond un certain nombre de choses en mathématiques. Et dans le fond, on pourrait dire qu'elle a débloqué quelque part... une appréhension qu'elle avait du côté des maths à l'occasion de cet atelier qui était revenu plusieurs fois. Et ils ont beaucoup aimé fabriquer quelque chose de concret avec des lumières, ou je ne sais pas ce que c'était exactement, mais c'était très intéressant. Pour compléter également, la structure est renforcée par un troisième temps la plupart des jours. C'est-à-dire que le matin, c'est ce qu'on appelle les enseignements académiques, hein, donc les maths, le français, l'anglais, l'histoire-géo, etc. Donc les enseignements vraiment traditionnels. L'après-midi, c'est l'atelier, mais on a inclus depuis cette année, en tout début d'après-midi, un devoir sur table. Parce que c'était une manière de venir solliciter les élèves après un savoir qui a été abordé le matin. Ça leur permet d'intégrer, hein, de faire une évaluation. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est quelque chose qui vient sceller le savoir qui est encore en germe. Et au moins, ça permet de faire prendre le savoir dans la masse. Et derrière, il y a l'atelier. Voilà. Donc, et cette structure-là, on a eu récemment une inspection. C'était en septembre, notre première inspection. Et l'inspecteur nous a félicité pour cette structure. Il a trouvé ça original. Et voilà. Donc, cette structure-là nous est effectivement particulière.
Alors, j'ai sous les yeux le petit journal que vous avez édité au mois de septembre de cette année. On voit effectivement des photos avec la cueillette des olives. Et également une visite de serre avec des anémones.
Ouais,
c'est
oui.
Pour voir, découvrir le métier d'horticulteur.
Tout à fait.
Ils vont à la découverte des métiers donc à travers ces ateliers en même temps.
Exactement. Et l'horticulteur fait des fleurs et des légumes. Et c'est un des ateliers préférés des enfants parce qu'en plus ils ont la possibilité d'amener ou des fleurs et des légumes à la maison pour montrer à leurs parents ce qu'ils ont fait. Mais ils aident énormément en plus. C'est même pas juste un atelier d'observation. Ils aident vraiment l'horticulteur à ramasser des fruits ou à remettre en place des palissages. Et ils découvrent effectivement des métiers différents.
Alors on découvre également sur les photos un cours de littérature en plein air avec Alphonse Daudet.
C'est vrai, tout à fait. C'était notre professeur de français qui a fait cours. On doit être auprès d'une chapelle. Alors voilà, il y a souvent des initiatives comme ça. On a fait pas mal de cours dans des ermitages. On est monté à Saint-Probas, à Tourves. Là, c'était la chapelle Sainte-Agathe, je crois, qui est à Besse. Voilà, donc il y a pas mal de lieux comme ça. On est allé aussi à Notre-Dame-des-Anges. Et donc les enfants... apprécient bien ça et ça les amuse aussi de voir qu'ils peuvent même rentrer dans des lieux qui sont en général fermés au public, des cloîtres, des choses comme ça. Et voilà. Le mot atelier est à prendre au sens large. Alors effectivement, tous les aspects très concrets, ça plaît énormément et c'est vrai, Christina le disait, ils sont très 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 fiers. Il y avait un de nos élèves qui avait ramené des fleurs et pour rien au monde, il voulait que ce soit sa maman qui les arrose, donc il s'en occupait. Enfin, c'était même très étonnant, même les parents étaient étonnés, etc. Et il y a aussi, par exemple, il y a eu un atelier chant qui a duré pas mal de temps, qui a duré plusieurs mois l'année dernière, et qui a préparé les élèves à chanter, à faire partie d'une représentation un peu exceptionnelle, puis c'était même une première mondiale, qui s'est déroulée à l'abbaye du Toronnet. Et donc ils ont pu chanter avec Lisa Magrini, qui est une chanteuse professionnelle. Et ils ont pu chanter là-bas, et c'est une expérience vraiment extrêmement marquante pour eux. Donc il y a un enregistrement, ça a été vraiment très marquant pour eux. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect atelier qui peut être quelquefois sur du long terme, avec une construction concrète, ou alors un travail sur la voix, un travail sur le geste. Les élèves avec Christina ont créé une petite pièce de théâtre, si tu veux en dire deux mots. Donc,
C'était très étonnant parce que j'avais rien préparé et je leur ai proposé. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Et de toute pièce, ils ont écrit. Bon, je les ai aidés un peu, guidés un tout petit peu, mais de toute pièce, ils ont écrit cette pièce de théâtre et ils ont joué la pièce de théâtre. Donc, on a fabriqué les costumes. Et c'était extraordinaire.
Ça s'est passé sur la place du village. Il y a des gens qui en parlent encore. C'est assez rigolo. Bon, j'y étais pas personnellement, donc toi, tu devais y être. Ouais. Ouais. C'était assez étonnant. Ils étaient effectivement bien habillés. Et ça s'appelle le troisième miracle de l'abbé Fouque. Parce que j'avais expliqué aux enfants qu'il est actuellement dans un procès de béatification. Et en général, c'est bien, ça peut aider d'avoir un miracle. Je leur avais dit que pour être saint, il faut de toute façon deux miracles, voire trois, etc. Et donc, pour être sûr que l'abbé Fouque soit un jour pleinement sanctifié, enfin pleinement saint, ils ont écrit le troisième miracle de l'abbé Fouque. Ça nous a tout à fait étonnés. Je pense qu'il n'y a guère que l'Esprit Saint qui peut créer des opportunités aussi inattendu, quoi, qu'on ne peut pas voir arriver, quoi, parce que c'est quand même des enfants, ils sont vivants, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà, ils sont très vivants, et là, ils ont pris ça en main, effectivement, c'était assez, assez étonnant.
Alors, j'ai une question à poser concernant les cours, donc beaucoup d'ateliers et de sorties donc, l'après-midi. Est-ce que vous avez maintenu les cours de sport, du coup ?
Oui, tout à fait, on a non seulement maintenu la cour de sport, mais on a introduit un cours de capoeira. Cet art ou cette danse, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de combat brésilien, qui comprend beaucoup de gestuels et de comment dire, quelque part de spiritualité. Et donc ça convient bien aux élèves, c'est assez étonnant. Donc le cours a été créé à Carnoul avec Romain Clos, qui est vraiment un très bon enseignant de capoeira. Et donc nous avons donc développant les activités sportives. On envisage de faire bientôt du tennis pour le deuxième ou troisième trimestre. Voilà. Peut-être aussi de rajouter, parce que je réalise qu'on n'en a pas parlé, mais il y a bien sûr une partie importante du côté de l'aumônerie. Donc nous avons un aumônier, l'abbé Forestier, et on a aussi la chance d'avoir l'abbé Beaublin, hein, que vos auditeurs connaissent bien. Voilà, je le salue bien sûr. Par exemple, l'abbé Beaublin a fait un camp avec les enfants, donc ils ont été ensemble à Sainte-Baume. C'était une sorte de, on va dire, retraite, je ne sais pas si on avait dit ce mot-là.
Recollection.
Oui, enfin, ça ne plaisait pas trop ce mot-là, mais enfin voilà, quelque chose comme ça, quoi. Et c'était à la rencontre aussi de la nature, hein, la rencontre de soi et la rencontre de la nature. Et il y a catéchisme toutes les semaines, ainsi qu'une messe. Voilà, et c'est assez important. Ce volet-là est également important parce qu'on a vraiment à cœur de former de jeunes chrétiens.
Alors, à qui s'adresse ce collège ?
À tout le monde.
Étonnamment, c'est une réponse qu'on peut faire.
Ouais, à tout le monde.
Alors, je pense qu'il s'adresse quand même avant tout à des personnes qui ont à cœur de donner une bonne éducation à leurs enfants. Par bonne éducation, j'entends une éducation qui a un lien avec ce que le Christ nous demande. Donc, il y a une prière tous les matins, même souvent toutes les heures, donc il y a une prière. Donc, pour nous, les enseignements ne sont pas une sorte de matière morte qui serait délivrée comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit répondre à un approfondissement de savoir, bien sûr, mais quelque part aligné sur le fait que notre visée la plus profonde, c'est de former des jeunes chrétiens. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, la plupart de nos élèves sont déjà catholiques, hein, c'est vrai. Mais pas seulement. On a accueilli, par exemple, l'année dernière, bon, elle n'est pas restée, mais on a accueilli quelqu'un qui se disait bouddhiste, par exemple, donc ça ne nous a pas gêné de l'accueillir. c'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui ont envie d'un enseignement un petit peu différent. Nos classes sont pas surchargées, hein, puisque nous avons en tout, aujourd'hui, on a 5 élèves. Ça veut dire que l'enseignement inclut un aspect sur mesure. Donc chaque élève a vraiment un visage, a vraiment une spécificité, une coloration. Et il lui est vraiment répondu par des enseignements qui... Alors je ne dis pas qu'il va intégrer à coup sûr, mais en tout cas, toute l'équipe pédagogique est vraiment à cet objectif commun de permettre aux élèves d'intégrer le mieux possible. Par exemple, on a un élève qui a quelques difficultés d'attention, par exemple. Eh bien, on lui a permis par moment, pas tout le temps, mais de dessiner. Et à la limite, de faire un peu une sorte de dessin qui représenterait ce qui a été dit dans le cours. Alors, ça lui permet de se concentrer autrement. On va bientôt ouvrir un primaire. Et on a très envie aussi de s'inspirer de la méthode de Montessori, pour la maternelle, si un jour on l'ouvre, et pour le primaire, ça m'inspirera également. Hein, donc
pour l'instant, les classes ouvertes, je crois, c'est 6e et 5e.
Exactement, 6e et 5e, tout à fait.
Donc peut-être, ensuite, vous allez ouvrir une 4e et une 3e ou
Alors, on c'est va ce ouvrir, c'est ce qui est prévu, on va ouvrir la 4e l'an prochain, la 3e l'année d'après, mais... C'est un peu le scoop. Dès janvier, dès la rentrée de janvier, donc après Noël, nous ouvrons une classe de primaire avec un petit CP et un CE1. C'est les parents d'un de nos enfants qui sont venus vraiment nous demander si on pouvait ouvrir une classe parce que ils sont vraiment soucieux de l'enseignement que reçoivent leurs enfants. Ils avaient vraiment à cœur que leurs enfants soient dans un environnement très favorable. Et donc, on a retroussé les manches et on s'est lancé dans une deuxième aventure aussi folle que la première, en imaginant qu'on va monter ce primaire. Peut-être tu peux dire deux mots aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant aussi folle que voilà, la première que la deuxième, parce que c'est vrai que... C'est vrai que c'est une grande aventure, mais nous sommes amenés par la réaction des enfants, nous sommes motivés par la réaction des enfants et inspirés. Les parents nous épaulent aussi et ils sont ravis avec la réaction des enfants et ce qu'ils voient ouvrir dans eux. Et donc, malgré la folie, c'est vrai que nous sommes ravis de continuer sur ce chemin.
Oui, je peux ajouter aussi qu'une des particularités, c'est le fait que les parents, disons de cette manière, on voit au chapitre, on ne considère pas les parents comme étant des gens subalternes, qui seraient étrangers à l'école, etc. Bien sûr, l'enseignant, il est dans sa classe avec les élèves et voilà, il fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais s'il y a des petits dysfonctionnements, on va vraiment recevoir les parents, envisager avec eux des solutions. Et on a vraiment à cœur qu'ils soient dans la boucle, on va dire. Voilà, qu'ils soient dans la boucle, qu'ils soient en interaction avec ce qu'on est en train de développer pour les enfants. Et certains s'investissent plus que d'autres. Il y a des petits covoiturages, des choses comme ça. Il y a des parents qui ont proposé d'aider aussi. Donc, on est vraiment dans l'idée que les parents sont partie prenante. Quelque part du collège.
Donc il n'y a pas cet effet de cloisonnement qu'on peut voir dans l'enseignement public.
Alors je ne sais pas si c'est... Oui, dans l'enseignement public, certainement qu'il y a ce type de cloisonnement, oui, c'est sûr. Je serai prudent sur l'enseignement public.
Non, on ne va pas parler du contenu, ne vous inquiétez pas.
Non, mais c'est pour dire que oui, en effet, il y a beaucoup d'établissements, ne serait-ce que par le nombre. C'est sûr qu'on voit bien que c'est différent. Une classe où il y a 25 ou 30 élèves, quelquefois ça peut même dépasser. Bon, là c'est différent. Donc il faut trouver en même temps d'autres ressorts d'animation pédagogique. Parce que, alors certaines fois tous les élèves sont ensemble, hein, pour les ateliers notamment, y compris entre 6e et 5e. Mais Il faut trouver une manière d'animer avec 3 ou 5, 6 élèves. Le maximum qu'on a eu en même temps, c'était 6 ou 7 élèves. Voilà, donc il faut trouver des ressorts d'animation, des dynamiques pédagogiques astucieuses et un petit peu différentes. Et d'où l'intérêt d'ailleurs des sorties. Vous voyez, par exemple, lundi, on a été voir une très belle exposition sur la guerre de 14-18, sur l'année 1916 exactement, qui était hier. Et donc on a fait ça avec les anciens combattants, qui nous ont très gentiment amenés avec le minibus de la commune. Donc c'était vraiment très bien. L'un d'eux avait fait très gentiment un petit quiz pour les élèves. Enfin, c'était vraiment très intéressant. On a d'ailleurs un petit article dans Var Matin ce matin. C'est un clin d'œil. Mais voilà, juste pour dire qu'on a aussi une envie d'ancrage local. Donc on développe vraiment des liens le plus possible avec l'ancrage local. Et je pense qu'on a, je dirais, un capital sympathie dans notre village, à Carnoul. Voilà. Je pense que dans pas longtemps, les enfants, les collégiens vont aller participer à un loto avec peut-être l'association du troisième âge. Enfin, voilà, donc on aime bien tisser des liens avec l'environnement également. C'est très important.
Alors, donc, le collège est situé à Carnoul. S'il y a des parents qui habitent Toulon, qui veulent inscrire leur enfant, est-ce que c'est possible ou c'est limité aux enfants de Carnoul?
Alors c'est tout à fait possible. D'une part, tous les enfants ne sont pas de Carnoul qui viennent à notre collège. Et d'autre part, Carnoul, historiquement et encore maintenant, est une gare bien desservie. Ce qui fait que nos horaires de cours sont organisés de manière à recevoir des enfants qui pourraient venir de Toulon. Voilà, et donc c'est tout à fait jouable, et d'ailleurs l'an prochain on devrait accueillir un petit sixième qui viendra de Toulon.
Très bien. Alors, une question qui peut aussi se poser, c'est un établissement hors contrat. Comment vous arrivez, parce que je pense qu'il y a une équipe enseignante à rémunérer, comment vous arrivez donc à vous financer?
Nous avons plusieurs enseignants bénévoles et évidemment, bien sûr, on reçoit des dons de la famille, des amis, des gens autour. Il y a aussi d'autres choses que nous organisons pour recevoir d'autres dons. Les élèves, les parents, les familles payent en fonction de leur quotient familial. Mais après, effectivement, il y a les dons. Il y a les bénévoles et il y a aussi, et donc ça nous permet aussi de payer certaines professeurs et de continuer à enseigner les enfants dans les bonnes conditions.
En fait, ça correspond un peu à un modèle qu'on avait pensé dès le début. C'est-à-dire, on s'est dit, toutes les personnes qui ont, on va dire, les cadras, enfin, les quinquas, on va dire, qui ont déjà un emploi, une vie professionnelle qui tourne, a priori, ils vont intervenir bénévolement, hein, c'est ça l'idée, hein, sinon on ne peut pas même ouvrir. Hein. Donc, à la base, les trois couples qui ont fondé, dans le fond, ce collège, voilà, donc il y a aussi le couple Lepage qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais par la pensée. Donc, ces trois couples de base interviennent bénévolement. Ma femme Isabelle est la directrice, et d'autres enseignants interviennent bénévolement, il y en a pas mal. Et on a quelques plus jeunes enseignants qui, eux, sont rémunérés. Alors, ce n'est pas des sommes extravagantes, mais ça correspond à la convention de l'enseignement hors contrat. Et donc, on est très content de pouvoir aussi participer à l'éclosion de jeunes talents, de jeunes enseignants, de jeunes professionnels qui travaillent aussi par ailleurs, mais qui ont choisi de nous rejoindre, quelquefois venant d'un petit peu loin, d'ailleurs, pour intervenir. Voilà, donc ça correspond un petit peu à une vision à la base d'un modèle qui doit progressivement déboucher sur un ou deux plein temps, qui eux seront rémunérés. Voilà, donc on est en train de réfléchir à tout ça, en sachant qu'il y a des modèles qui fonctionnent déjà relativement bien en zone urbaine. Là, nous, on est dans une zone plutôt de campagne, dans un village. Il y a 3800 habitants à Carnoul. Eh bien, il faut inventer un modèle qui puisse fonctionner. Et qu'il ne soit pas au rabais, quoi. C'est ça le grand défi, quoi. Qu'il soit à la fois dans les clous légalement, pas au rabais ni pour les enseignements, ni pour la parole de Dieu qui est donnée aussi dans les, dans les aspects catéchisme, etc. Voilà.
Alors, on va terminer avec quelque chose de très important, les coordonnées pour que les parents puissent vous contacter et avoir des renseignements.
Bien sûr, je vais donner les coordonnées juste avant de préciser qu'il y a un système de bourse également. Hein, donc, les parents peuvent déposer des bourses et ils les obtiennent. Alors, le téléphone, c'est le 06 17 10 24 48.
Voilà, et bien, merci beaucoup Christine Attari et Bernard Astier
merci
de votre
Sandra.
Visite.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.